Vous avez probablement eu connaissance, d'une manière ou d'une autre, d'une série télévisée qui s'appelle The Chosen. Alors, comme je me doute que tous et toutes ici ne passent pas leur vie devant la télé, je rappelle simplement qu'il s'agit d'une nouvelle version originale de la vie du Christ. On le voit entouré de ses disciples, des femmes et des autres personnages religieux, politiques, militaires de son temps. Nous en sommes actuellement, pour votre gouverne, à la saison 3. Or, il y a quelque temps de cela, je lisais que l'équipe des acteurs et des réalisateurs de cette série à succès s'est déplacée jusqu'à Rome, où ils ont, entre autres, pu rencontrer le pape François. Et lorsque notre pape reconnut l'acteur qui jouait précisément le rôle de Jésus, il lui aurait lancé avec humour « Toutes mes félicitations pour votre belle série. J'espère seulement que les scénaristes ne vont pas faire mourir votre personnage. » Chaque année, lorsqu'on entend le récit de la Passion, nous nous représentons plus ou moins une sorte de film. On reconnaît l'histoire immuable, ses personnages, son décor. Et je me rappelle, personnellement, enfant, j'espérais toujours que, d'une année à l'autre, Judas ferait une sorte de reprise de conscience et de retour à la raison, ou encore que Ponce Pilate se réveillerait pour voler au secours et tirer Jésus d'une telle injustice. Évidemment, rien de tout ça ne se passait. Chaque année, notre méditation de ce récit de la Passion pourra se retrouver influencée par toutes sortes de choses, la longueur du récit, la performance des lecteurs, peut-être l'indisposition créée par le jeûne, la longue station debout durant la lecture, la qualité du système de son de l'Église. Sur ce dernier point, je vous félicite, on a de la chance. Ici, on est nettement au-dessus de la moyenne diocésaine. Plus profondément, les évangiles proposent une riche galerie de portraits, de figures, d'attitudes, de notre propre humanité, en présence du mystère de l'amour infini, manifesté en Jésus-Christ. Je peux me découvrir solidaire de chacun de ces personnages, y compris les moins recommandables. Je peux être Pierre le téméraire qui va renier. Je peux être un de ses disciples qui prennent la fuite. Je peux être aussi Joseph d'Arimathie ou Nicodème qui descendent Jésus de la croix et prennent soin de son corps. Je peux être Pilate qui consomme l'injustice en livrant un coupable. Je peux être Judas le traître, un de ses grands prêtres, rendu incapable d'écoute, bardé de toutes leurs certitudes religieuses. J'ai même lu un jour un article original qui faisait mention du coq en tant qu'instrument providentiel à son insu. Comme quoi, si le récit ne change pas, moi je change. Je ne suis pas le ou la même personne que l'an dernier à pareille date. Or, je suis invité à me laisser rejoindre par ces différentes figures que m'adresse le récit de la Passion. Nous sommes aussi des acteurs vivants, vous et moi, de cette Passion du Christ. Qu'est-ce que l'Esprit te donne d'entendre résonner au fond de toi-même à ce récit? Hier soir, au cours de la messe commémorative de la dernière scène, nous contemplions à travers la liturgie Jésus, qui prenait résolument le chemin de sa passion par le don de sa vie, dans un acte d'amour absolu. Alors qu'il aurait très bien pu mobiliser des légions d'anges ou simplement des soldats pour le tirer d'affaire au jardin de Gethsémani, Jésus verse des larmes de sang. Il engage son amour au cœur même de la souffrance du monde et du péché. À sa suite, nous sommes invités à nous engager, nous aussi, résolument dans l'examen de notre conscience, afin de permettre à Dieu d'y ouvrir de nouveaux chemins de vie. Cela passe par le creuset de la croix qui nous est proposé. Dans son testament spirituel, Christian de Chergé, ce moine de l'abbaye cistercienne de Tibérine, qui fut assassiné en Algérie par des intégristes religieux en mai 1996, écrivait au tout début presque « Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'est pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir dans le monde et même dans celui-là qui me frapperait aveuglément. » Il ajoute « J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. » Lui, l'homme de Dieu, un martyr, j'oserais dire le saint, se sent néanmoins complice du mal, y compris celui dont il sera lui-même finalement la victime. La trahison, la violence, l'injustice, la lâcheté, l'inconscience omniprésente dans le récit de la Passion sont aussi les miennes, sont aussi les vôtres, les nôtres. Elles sont aussi celles de toute l'Église, et à cet égard, je sollicite à mon tour le pardon de Dieu et de mes frères et sœurs, en mon nom personnel, en celui de mon Église, pour toute complicité avec le mal. Je porte aussi ma part de responsabilité dans les scandales et les violences qui affectent notre Église et notre monde. En première lecture, nous entendions un extrait du livre du prophète Isaïe, qu'on appelle communément les chants du serviteur souffrant. Ce sont quatre poèmes qui sont disséminés entre les chapitres 42 et 53 du livre d'Isaïe que vous avez dans vos Bibles. L'envoyé de Dieu y apparaît comme un pauvre, humble, humilié, qui demeure néanmoins ferme et fidèle jusque dans la souffrance. Ce serviteur peut être à la fois une personne, ça peut être le peuple de Dieu, ça peut être le Messie lui-même, ça peut être le peuple des pauvres et de celui que l'on rejoint dans la dimension de nos propres pauvretés. L'envoyé de Dieu prend aujourd'hui le visage de migrants, de naufragés, de victimes de guerre, de millions d'êtres humains, hommes et femmes, qui subissent des violences politiques, économiques, sexuelles ou climatiques. Le serviteur revêt aussi la forme de chacune de nos croix personnelles. C'est ce visage que Ponce Pilate présente à la foule en disant « Ecce homo », voici l'homme, au sens de toute l'humanité souffrante. Le Christ se confond avec ce peuple qui souffre pour ne faire qu'un avec lui. Sainte Thérèse de Lisieux n'écrivait-elle pas dans un de ses magnifiques poèmes qu'elle avait besoin d'un Dieu qui prenne sa nature, qui devienne son frère et qui puisse souffrir? Nous voici arrivés au moment de ce tridium où le Christ s'unit à nos souffrances pour y dessiller des fissures d'espérance. La petite noix qui demeure seule en sécurité relative Mais jusqu'à ce que de l'engrais animal vienne déclencher tout un processus qui va fissurer sa coquille. Et c'est alors que s'entame une mutation qui produira cet immense chêne, majestueux, fort, et à son tour, source de vie. Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance, écrit Saint Jean plus tôt au chapitre 12. Ce sont nos fêlures qui permettent à la lumière de s'infiltrer. Dieu n'a pas enlevé le mal, on le sait bien, mais il vient ouvrir en son sein une porte vers la foi, l'espérance et l'amour. Il élimine pas tout ce qui nous fait souffrir. On lui posera des questions dans l'au-delà. Mais certainement, le Christ sur la croix nous fait signe qu'il nous donne cette force, qu'il est présent intimement, absolument. Et c'est ainsi que la croix, cet immonde et répugnant instrument de torture, a pu devenir, paradoxalement, pour les chrétiens que nous sommes, les signes de l'amour divin. Le mot « croix » dans notre langue française consonne avec le verbe « croire ». On dit « je crois en quelque chose, je crois en quelqu'un ». Il veut dire aussi ce « je crois », il peut vouloir dire le verbe « croître » au sens de grandir, de pousser, « je crois ». La croix a la forme d'un plus, d'un ajout. Ou il a encore la forme d'une clé qui déverrouille et ouvre. Dans un instant, mes frères et mes sœurs, après avoir invoqué les grandes intentions de prière de l'Église et du monde, nous serons invités à venir personnellement vénérer la croix du Christ. Dans la foi que tout ce qui entre vraiment en contact, en relation avec le Christ, est sauvé, est réconcilié avec l'amour et avec la vie du Père. C'est l'occasion liturgique privilégiée de lui ouvrir notre cœur, de lui offrir chacune de nos croix, de laisser Jésus les toucher, les prendre, pour en libérer de nouvelles sources de grâce. Pour moi, dit Jésus, quand j'aurai été élevé de terre, j'ai attiré à moi tous les hommes. Jésus disait aux foules, il en rejaillira du sang et de l'eau. La croix pourrait être vue comme une espèce d'immense station d'épuration du mal plantée au cœur de l'histoire humaine. Elle produit l'abondance de la vie divine et la guérison qui abolit l'espace et le temps entre le temps et l'éternité, qui abolit l'abîme qui sépare notre condition humaine, parfois misérable, d'avec l'éclat radieux d'un amour qui a vaincu la mort.